l'Europe, il fera 6 degrés au plus chaud.
Espace 2, Jean-Luc Rider.
Bonjour. De deux choses l'une. Soit du 23 au 30 août passé, vous avez assisté à l'atelier de musique ancienne de Gruyère. Et alors soyez les bienvenus, ça vous fera des souvenirs. Soit vous n'y avez pas assisté, et alors soyez les bienvenus. David Mechtri a donné un sous-titre à cette semaine, Troubadoubadour. Musique en mémoire.
D'où que tu viennes, qui que tu sois, salut à toi. Pardonne-moi ce tutoiement, mais pour moi, tu es déjà un initié. Puisque tu as gravi la première montée avec le concert des cloches et le chant du ruisseau. Ici, on l'appelle la Poya, car il y a deux événements majeurs dans ce pays. L'alpée du printemps vers les pâturages d'en haut et la des Alpes, le retour à la plaine en automne, quand le fruit est mûr. Mon fruit, car j'ai fierté à le dire, ce fruit vient de moi. Le fruit, dans le patois d'ici, c'est le freu, le fromage. Mais il faut que je me présente. Moi, je suis la vache. Je porte un nom, Cerise. Rien à voir avec ma robe noire et blanche. Mon patron m'a baptisée Cerise parce que je suis née, pardi, au temps des cerises. Le moment est venu pour toi de visiter les caves, où mon fromage va rester durant 5 mois. Tous les arômes, si tu as faim palais, tu les retrouveras, en dégustant le gruyère à la main ou en fondue.
Bonjour David Mechtri.
Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Cerise. Restez seulement là pendant qu'on évoque cet atelier de musique ancienne de Gruyère. Que vous avez visité, visiblement, c'est chaque année un double plaisir. D'abord, c'est chaque été de vous savoir à Gruyère en train de visiter, de fréquenter cet atelier de musique ancienne. Et puis un autre plaisir qu'on a bisé venu, c'est que vous nous en parliez, David Mechtri, dans Musique en mémoire.
En vous donnant l'eau à la bouche peut-être, puisque la fromagerie que j'ai visitée là très brièvement avec cet audio guide était celle de démonstration qui se situe au bas du village de Gruyère.
Oh, je vois bien.
Et il faut grimper pour arriver jusqu'à l'atelier qui lui est situé dans la salle des gardes du château pendant toute une semaine. C'est traditionnel, comme vous le disiez, à la fin du mois d'août de chaque année. Et cette année, l'originalité était que l'instrument en construction, puisque c'est un stage de lutherie en fait, qui a duré une semaine avec 5 stagiaires cette année qui étaient les invités des luthiers, des maîtres luthiers Philippe Motériau, l'organisateur du festival,
oui.
Et son invité français Christian Roux, un des grands spécialistes de la lutherie médiévale. Ces stagiaires fabriquent cette année un organistrum, un instrument que je pense que nous allons découvrir à l'occasion de cette semaine qui a existé pendant à peine 150 ans, à la renaissance du 12e siècle, comme l'appelle Christian Roux.
Tout ce que vous n'avez jamais pensé à demander à propos d'un instrument que vous ne connaissez pas, l'organistrum, vous sera dit cette semaine, en tout cas lors des deux premières sessions de cette semaine musique en mémoire, vouée à cette musique des troubadoubadours. David Mechtri, on commence par quoi, David ?
Par une visite guidée du château après la fromagerie. C'est son conservateur Raoul Blanchard qui présente dans ses murs bientôt millénaires le fameux château de Gruyère sur toutes les cartes postales de la Suisse.
D'une part, le château qui date du XIIIe siècle, qui a été transformé à la fin du XVe, début XVIe siècle, et là, il a une vocation du médiéval. Et je pense que le sujet de l'atelier de cette année va à merveille, effectivement, avec l'enveloppe de l'architecture du château.
Et il y a d'autres manifestations de théâtre ou de spectacles médiévaux régulièrement ici ?
Et deux moments fixes. On a au début de l'été, le 21 juin, on a la fête de la Saint-Jean, qui est une fête médiévale, et vers la fin de l'été, c'est l'atelier de musique ancienne. Alors nous avons les deux les deux événements qui sont d'une part avec des costumes, avec des troupes qui viennent ici refaire un peu un esprit médiéval, et ici l'atelier où il y a quand même avec le cours des maîtres, avec en même temps aussi un atelier qui construit un instrument, on a cette approche scientifique et musicale.
Et un certain prestige avec toujours les enfants invités. Et puis j'ai vu, il me semble...
La fromagerie, ça c'est fait. Le château, ça c'est fait. Direction maintenant pour cet atelier de musique ancienne. Dans cet atelier de construction, justement, David ?
La salle des gardes. Nous étions avec Raoul Blanchard, donc le conservateur du château. Nous irons aussi au cours de cette semaine à l'institut où sera donné un cours de chant des troubadours. Et puis il y a de nombreux concerts qui ont lieu dans l'église de Gruyère. C'est donc au cours de cet atelier, septième du nom, qui avait lieu à Gruyère en fin août. Ici, maintenant, nous allons donc entrer dans cette salle des gardes où commence la construction de cet organistrum mystérieux.
C'est le modèle exact de celui que vous allez fabriquer, celui qui est en train de...
Oui, ça c'est je crois, la première copie que Christian Roy a fait de l'organistrum qui est à Saint-Jacques-de-Compostelle. Avec les couleurs d'origine, vraisemblablement, restituées, puisque tout ce qui était sculpté était peint. Mm-hmm.
Mais on peut que deviner les couleurs, bien, parce qu'on a gardé des polychromes de cette...
Oui, il y a des analyses qui ont été faites assez pointues. Scientifiques sur en fait des résidus de peinture qui étaient dans les creux des sculptures, et c'était des couleurs très très vives.
Et là, il y a que le vert des feuilles apparemment.
Christian Roux, David Maestri,
enchanté. Voilà. Bonjour. Le reportage commence pour moi autour de cet atelier de musique ancienne. Alors un organistrum déjà terminé et l'autre, je pense, c'est encore.
Oui, c'est dans, juste dans le début, la genèse. Début, on a des pièces un peu partout qui commencent à prendre forme.
Et vous allez faire exactement le même modèle ou...
C'est on peut dire exactement le même. En fait, celui-ci, c'est un instrument qui date d'avant les études sur place sur le Porche de la Gloire, puisque c'est un instrument qui est repris d'après une sculpture du Portico de la Gloria à Saint-Jacques-de-Compostelle. On va dire que ce modèle, cet instrument-là, j'avais construit il y a plus de 25 ans maintenant, en même temps qu'une grosse étude que j'avais faite sur le sujet. Et depuis, j'ai eu l'opportunité de monter en haut du porche sur des échafaudages, de pouvoir regarder sous tous les angles. Et il y a des petits détails, des petites choses qui ont changé, mais en gros quand même c'est le même instrument. Hein. Celui qu'on va faire va être un tout petit peu plus grand en taille, un tout petit peu plus large en caisse, mais c'est la même conception.
Là, vous l'accordez, c'est ça ou
là, on règle.
Vous êtes en train de cirer la roue, c'est ça ou c'est qu'est-ce que
ça, c'est de la colophane en poudre. Et c'est tout simplement, la roue est en bois. La roue, c'est en fait un archet perpétuel. Hein.
C'est le principe de la vielle à roue, en fait.
C'est en fait ça, c'est l'ancêtre de la vielle à roue. C'est la vielle avant la vielle, mais c'est pas une vielle. C'est donc l'organistrum qui est en fait un guitchant pour supporter les premières formes d'organum, pour que les chanteurs puissent apprendre. Les premières formes de polyphonie chrétienne. Hein. C'est une forme musicale qui apparaît au 9e, l'organum. C'est trois mélodies parallèles à des écarts de... Il y a eu différentes écoles entre les Anglais, bon bref, mais en général un écart de quinte et octave, c'est-à-dire, et donc trois chanteurs qui chantent des voix parallèles, et pour leur enseigner ça, on a inventé un instrument qui chante à trois voix parallèles, à trois hauteurs différentes, voilà. Et ça permet aussi de servir de base à un chanteur qui fait les mélisses au-dessus et qui va improviser en fonction de la teneur que va lui donner l'organistrum.
Et l'acolophone, on imagine que j'ai toujours imaginé que c'était inventé pour les crins des archers, mais on le met aussi sur les bois. Oui, mais c'est une roue en bois.
C'est un archer en bois, voilà. Absolument, l'acolophone permet une accroche entre le crin du cheval et la corde du violon. Et là, de la même façon, elle permet l'accroche entre la corde et le bois de la roue.
Et on sait qu'elle existait déjà, l'acolophone,
l'an 1000. C'est de la résine de pin.
C'était utilisé déjà à l'époque, probablement pour les instruments.
Bien sûr, puis bien avant. On a déjà des preuves de l'utilisation de l'acolophane chez les archers qui tiraient à l'arc dès le 6e, 7e siècle. En Asie centrale, on sait que l'acolophane était utilisé.
Mais c'est plutôt pour retenir pour coller la corde contre l'arc. C'est bizarre pour un archer.
C'est pour conserver la je crois que c'est pour enduire la corde.
Oui. Enfin, les instruments à archer sont pas très loin des armes des anciens archers.
Non, et puis, l'archer arrive lui-même d'Asie centrale. Il est passé par ces mêmes populations, les populations tartares, ou bien les Turcs dans le sens de barbares, ce que les Chinois appelaient les barbares. Ces populations qui étaient au nord de la Chine, qui évoluaient depuis la Mandchourie jusqu'en Asie centrale. C'est par eux qu'a transité l'archer jusqu'en Occident, enfin jusqu'en Asie centrale pour le moins. Donc c'est les mêmes populations, les populations de chasseurs, tireurs et les populations de musiciens à l'archet, c'était au départ les mêmes. Excusez-moi, c'était un passionnant brouillon.
Très bien, non, ça va vraiment.
Bon, ça c'est bon. Hein. Ah Philippe, hein, ça sonne?
Ça sonne nettement au pied, je trouve.
Ah bah oui.
C'est vrai,
oui. Ça y est, elle est... Ça fait juste, ça bouge un petit peu, mais il y a le volume sonore. Hein, si tu veux.
Donc les trois cordes sont accordées sur quelle
quinte octave. Quinte octave. Là, c'est pas encore tout à fait juste. Donc voilà, c'est important de le mettre en état de jeu, que tout le monde puisse s'amuser avec.
Puis les décorations, c'est cette belle peinture verte et ces petites croix sont imitées aussi de l'instrument de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Sur l'instrument original, on sait que toutes les œuvres sculptées médiévales étaient polychromes. Nous avons fait des relevés de polychromie non seulement sur l'instrument, l'organistrum, mais sur différents endroits du Portico della Gloria. Et en fait, il y a une succession de 7 ou 8 couches de peinture suivant les époques. Le porche était repeint avec des couleurs différentes. Et on a pu en dégager certaines. Et là, c'est plutôt une improvisation sur des bases médiévales, à partir des relevés faits sur l'original.
Vous allez utiliser les mêmes couleurs alors pour l'instrument que vous commencez à fabriquer maintenant.
Là, c'est quand même un travail assez colossal, un instrument assez complexe. Nous n'avons qu'une semaine pour le faire, donc le but à atteindre, c'est de faire sonner l'instrument et qu'il soit parfaitement monté, réglé, qu'il sonne et qu'il puisse être utilisé. La finition, ce sera un deuxième stade qui sera fait après, parce que c'est compliqué la finition d'un instrument, c'est aussi très long. Il y a les périodes de séchage et tout qui sont pas tout à fait compatibles avec les délais. qu'on a ici.
D'un atelier donc d'une semaine. Merci Christian Roux.
Hey, bonjour.
Ça va?
Vous êtes alors stagiaire cette année.
Oui.
Parfait. Bien. Vous êtes le carillonneur ici de...
Oui, malheureusement sans carillon cette année. Il y a toujours...
Il est en réparation?
C'est toujours en réparation puisqu'on a une cloche qui a cassé les deux autres. Alors,
comment ça s'est passé? C'est un accident de cloche, c'est rare?
C'est une cloche qui a monté, parce qu'elle est gouvernée maintenant électroniquement. Alors, il y a eu un problème, puis elle a monté, elle a percuté deux autres, les battants sont cassés, elles se sont ébréchées, il a fallu réparer. Ça fait 2 ans maintenant qu'on est sans carillon, malheureusement.
Oui, ce qui était pourtant un des symboles de Gruyère, ici, le carillon qui résonne.
L'année prochaine.
D'accord. Donc c'est long pour réparer une cloche. Alors, plus long pour des instruments à
C'est plutôt long à savoir qui paye les dégâts.
Voilà. Ah oui. Parce qu'elle va être refondue ou bien
actuellement, elles sont en France pour réparation.
D'accord. Dans quel atelier?
Je ne sais pas. Je ne me suis pas occupé de...
À Nantes, hein, il y a une fameuse fabrique de cloches qui était un ancien chantier naval. C'est pas juste?
Ah, mais ça, c'est Paccard qui était allé faire la plus grande cloche du monde dans les ateliers de Nantes ou de La Rochelle plutôt.
La Rochelle.
Oui, plutôt de... Oui. parce qu'ils n'avaient pas les fours nécessaires pour fabriquer ces cloches-là.
Voilà. Alors là, vous êtes en train de limer ce qui est, donc, ce qui a déjà une forme un peu de,
comme du violon, 8. Hein,
le 8.
Le 8 de l'organistrum, et puis, on est en train d'essayer de trouver une très belle courbe. Voilà. Pour que ce soit beau. Ce n'est pas évident.
Le bois va être très, très mince au final, ou?
Alors, ici, ce sera évidé. On aura à peu près 1 centimètre d'épaisseur, ici. Et puis, cette partie-là va être aussi un peu creusée. On voit les éclisses sont taillées dans le... C'est pas fait à partir de panneaux, mais c'est creusé dans l'épaisseur.
Voilà, c'est le contraire d'un violon. C'est un monobloc, comment?
C'est un monobloc, oui.
Creusé et non pas des pièces assemblées.
Tout à fait.
Et vous avez déjà de l'expérience du travail du bois, André Pochard ?
Oh, moi, j'aime bien bricoler, mais c'est quand même ici des gestes assez nouveaux pour moi, oui. Il faut apprendre.
Très bien. Une semaine, alors, pour ça.
Merci. Merci.
Philippe Motério, vous êtes au deuxième jour de la construction de cet organistrum. Je peux vous demander de présenter les stagiaires. Il y a pas mal de monde dans cette salle des gardes du château de Bruyères aujourd'hui. Et puis leur activité à chacun.
On était presque à l'étroit cette année. Oui. Il y a 5 stagiaires, effectivement. André Pochard, de Gruyère.
Voilà, le carillonneur.
Le carillonneur de Gruyère, qui passe donc aux cordes frottées.
Voilà.
Il y a deux Parisiens, Lara et Laurent. Sont là. Alors, Laurent travaille avec André sur le corps de l'instrument, donc la pièce massive en tilleul.
Il se situera la roue, hein, c'est la forme de
la caisse. De... Alors, pour le moment, c'est un gros bloc de bois massif qui va être évidé à l'intérieur. Et puis, ils sont en train de perfectionner les courbes. Jusqu'à ce qu'elle soit vraiment comme sur le trait.
Ça se fait il y a des traits. Hein. Ça se fait à l'œil aussi.
Oui. Bon, le tracé se fait au compas. Mmh. Et puis ensuite, il y a tout un travail de sculpture sur l'extérieur.
Veines, hein. C'est quel bois ça ?
C'est du tilleul avec des veines assez discrètes, mais c'est un bois très stable et très léger.
Mais de côté, là, c'est forme.
C'est les traits de scie, qu'on, justement, on va enlever. Ouais. Et puis là, toute la couronne extérieure va être sculptée en creux, qui donne à l'instrument une élégance typique des instruments médiévaux, toutes les vielles, tous les instruments type prébab, type gig, donc les espèces de violons de l'époque, ont toujours cette couronne d'éclisse en creux.
Donc le bord sculpté, c'est ça.
Alors le bord, comme vous voyez là, est épais d'un centimètre. Mmh. Et puis ça, ce sera seulement sur la partie qui touche la table et qui touche le fond, parce que sur la hauteur de l'éclisse, au centre, elle va être à 4 mm d'épaisseur, en fait, une espèce de courbe.
D'accord. Solide aux
arêtes supérieures et inférieures, oui, à l'endroit des joints. Et ça donne beaucoup d'élégance à l'instrument.
Et l'autre qui est déjà fait, donc qu'on a vu tout à l'heure, le modèle, il a l'air pratiquement cylindrique.
Voilà, alors ça c'est un modèle qui n'a pas cette finesse de sculpture.
D'accord. C'était avant que Christian Rowe, comme il nous l'a expliqué, a pu monter jusque sur le torche. On remarque cette fente dans la sculpture.
Oui, et on le voit aussi sur des sculptures de gigues, des peintures d'instruments à cordes frottées.
On n'imagine pas qu'il y ait autant de précision dans la reproduction picturale médiévale. C'est donc très très fier, souvent.
On peut penser raisonnablement que les sculpteurs et les peintres avaient devant eux les vrais instruments qu'ils sculptaient. C'est évident pour l'organistrome de Saint-Jacques-de-Compostelle, évident.
Alors les instruments, parce que vous avez aussi toute une table, enfin deux bancs là, qui exposent tous les instruments du luthier, toutes sortes de gouges, de...
Les outils.
Voilà, les outils plutôt. Ceux qui sont utilisés alors pour faire cette courbure de la table.
Alors ça c'est le corps de l'instrument, c'est-à-dire ce que moi j'appelle la couronne d'éclisse, tous les bords de l'instrument qui sont taillés dans une pièce de bois. C'est un instrument qui est en gros en deux parties monoxyles, c'est-à-dire toute la caisse est taillée dans un même bloc de bois.
Ça a une fonction de résonance aussi cette partie ?
De rigidité, la résonance elle va plutôt tenir au fait que la table et le fond, donc les parties du dessus et du dessous, sont beaucoup plus fines et se répondent l'une à l'autre un peu comme deux peaux de tambour. Et la sonorité, la longueur de son, la beauté du son dépend plutôt de ces parties-là. Et à la couronne d'éclisse, on lui demande d'être rigide. C'est en partie pour cette raison qu'elle est renforcée en quelque sorte au joint là, des deux cercles par une pièce à la taille qui à l'intérieur porte un renfort. Donc il y a vraiment un souci d'architecture rigide.
C'est pour ça aussi qu'il y a du tilleul qui n'est pas spécialement un bois de résonance.
Voilà, c'est un bois inerte, relativement léger, mais qui va peu se déformer. Et comme c'est un instrument dont on sculpte beaucoup l'extérieur, il faut qu'on ait un bois assez tendre. C'est le bois idéal pour la sculpture, le tilleul. C'est traditionnellement le bois le plus utilisé pour la sculpture, puisqu'on peut à la gouge obtenir de ce bois à peu près ce qu'on veut. C'est pas un bois fibreux qui décide où doit passer l'outil. D'accord. C'est vraiment la main qui peut dire sa propre idée.
Et ça, on sait qu'à l'an 1000, on faisait des organistromes en tilleul, mais je pense pas qu'on arrive à deviner ça d'après les sculptures en pierre.
Non, évidemment pas, mais par contre, encore une fois, raisonnablement aussi, en pensant aux traditions de fabrication d'instruments qui sont restées vivantes dans le nord de l'Afrique, par exemple, où il y a des instruments très similaires, on n'emploie pas des bois qui venaient de très très loin, on emploie les bois locaux, on n'emploie pas des bois très très durs comme certains fruitiers, mais plutôt des bois tendres, ça veut dire le saule, l'aulne, le tilleul, qui sont de bons candidats à la sculpture.
Mais là, pourquoi est-ce que c'est le tilleul qui a remporté la panne par rapport au saule ou à l'aulne?
En partie parce que Christian Rowe avait cette pièce disponible à l'atelier. En fait, c'est aussi un avantage du tilleul, qui est un arbre majestueux, très grand, c'est de pouvoir en tirer des pièces de bois assez imposantes dans le fil. Voilà.
Et alors les deux outils qui sont utilisés maintenant, il y a un petit rabot et puis une lime.
Voilà, c'est une courbe qui est soignée avec des outils tranchants. Donc le ciseau à bois et maintenant le rabot pour la finition. Et puis la dernière touche est donnée par une lime pour vraiment suivre jusqu'à ce que ce soit quasiment parfait. C'est un travail très minutieux.
Et les deux entailles, c'est qui sont pour poursuivre.
C'est les traits de scie qu'il s'agit justement de faire disparaître. Et là, les deux stagiaires ont suivi hier une initiation à l'usage du rabot et aujourd'hui sont performants.
Vous, c'est Laurent, c'est ça?
Oui, voilà. C'est vrai que j'entends la différence de bruit. Hein. Ça fait, hein, moi, je fais tout au son, en fait.
Le son du bois ou de l'outil?
Le son de l'outil sur le bois, ça fait... Alors qu'hier, ça faisait... c'est très, très net.
Et vous êtes un familier du travail sur le bois?
Non, en fait, pas du tout. C'est-à-dire c'est un truc qui m'a quand même tenté depuis très longtemps. Je veux dire, je joue de la musique et...
La musique médiévale?
Non, du tout, de la musique du piano. Et puis... Donc, bref, en fait, c'est assez marrant, je suis là, ça fait... J'ai aussi, dans mon travail, beaucoup bricolé, mais pas le métal. Et c'est vrai que le bois, c'est un truc qui me branchait beaucoup. C'est vrai, le bois, c'est vraiment noble, on peut le toucher, etc. Et en fait, je travaille dans un laboratoire de recherche en physique, qui n'a aucun rapport, sauf que depuis 2 mois, je suis dans un labo sur les instruments de musique. Et donc là, je suis entouré de gens qui bossent énormément avec des luthiers, de manière assez intéressante d'ailleurs, c'est-à-dire... On considère plus que les luthiers, ça fait 200, 300 ans, qui font leur travail. Donc en réalité, ils savent, on n'a rien à leur apprendre. Le but, c'est d'essayer de comprendre la tradition.
Mais pourquoi ça n'a pas vraiment évolué aussi depuis 300 ans? C'est assez mystérieux.
Si, ça a évolué pas mal, mais...
On dit que les instruments fabriqués à Crémone au XVIIe siècle n'ont jamais été surpassés.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on s'aperçoit qu'il y a des petites améliorations et que ça fait des optimums en fait. Et que si on essaye après mathématiquement de faire mieux, en fait non, on finit par s'apercevoir que oui, c'est il n'y a pas de mystère. Si on donne un petit coup comme ça, c'est parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est vraiment deux approches complètement différentes. Il y a une approche par l'oreille. Qui a été hyper développée par les luthiers, qui est hyper performante en fait.
Et comment est-ce que ce stage de lutherie est venu à votre connaissance? Alors vous venez d'où?
Ah, parce que du coup, je me suis dit que je ferais bien un stage de lutherie. Donc j'ai commencé à chercher un peu ce qui se faisait. Et en fait, la plupart des stages de lutherie qu'on trouve, ce qui est assez compréhensible en fait, c'est faites votre instrument en une semaine, 2 semaines, 3 semaines.
Et en kit, presque.
En kit. Bon, de toute façon, c'est inévitable. Je veux dire, on peut pas, partant de zéro, faire... Mais ça m'intéressait beaucoup moins, par exemple, de fabriquer un violon alors que je joue pas de violon. Et donc là, quand j'ai vu ce truc, j'étais en plus très sensible à cette idée que on allait se mettre tous ensemble pour construire un instrument et que cet instrument, il allait être... propriété de l'association, en fait. Mmh. Qu'on allait en donner après... qu'il allait être utilisé par qui veut. Donc ça m'a vachement branché.
Vous avez envie de jouer de l'organistrum alors à l'avenir?
Non, mais de voir en jouer, ouais, ça m'intéresse. Ça. Mais je sais que c'est vraiment une idée que je trouvais très... qu'en gros, on venait là pour partager quelque chose, mais que... voilà. Enfin, c'est vraiment une idée qui me plaisait beaucoup, ça.
Et vous êtes venu de loin pour jusqu'à
Paris. Paris. Et en fait, c'est assez facile, quoi.
D'accord.
Et puis, c'est bien organisé, donc je suis hébergé ici. Il y a vraiment aucun problème.
Bien. Alors, bon travail, quoi. Merci.
Juste voir comment ça se passe.
On a un problème de perceuse.
Ah oui. Comment faisaient les gens au Moyen-Âge quand ils avaient des problèmes de perceuse?
Ils n'avaient pas la radio
qui les embarrassait.
En fait, ils faisaient la chignole, donc à la main, qui oui. était très discrète. Ils avaient plein de petites mains comme ça pour faire tout ce qu'on fait avec l'électricité.
Et le stagiaire qui est derrière la perceuse, là, il me semble que je l'ai vu déjà dans des constructions précédentes.
Jean-David,
Bonjour.
Qui vient de Nanda, était effectivement déjà là l'année passée pour construire la guitare avec Maurice Ottinger.
Et alors, on remonte encore quelques siècles en arrière, mais c'est quand même le même travail, plus ou moins?
Ben, c'est un peu plus de sculpture, cette année.
Voilà. Il y a même un atelier un peu de dessin, on dirait, à côté. Hein. Donc, deux jeunes filles qui sont attablées à des patrons.
Très clairement, les filles, les garçons. Oui.
Les filles dessinent, les garçons font le... Alors, qui sont ces deux stagiaires là-bas qui dessinent donc le décor de l'organistrum, c'est bien ça, Philippe Mottet?
Voilà, elle reporte, en fait, le plan sur les pièces de bois qu'on va sculpter. qu'on va ajourer, découper. Donc Clara, qui est l'autre parisienne.
Bonjour.
Et Nina, qui... Alors, je ne sais pas s'il faut dire que tu es de Amsterdam ou de Gruyère.
De Gruyère.
Les deux, voilà.
Et le dessin a été fait par Christian Roux.
Voilà, c'est un dessin technique. C'est pas vraiment un relevé parce que la sculpture de pierre est quand même trop vague pour pouvoir faire un dessin aussi précis. Oui. Mais c'est un dessin d'atelier qui reproduit aussi fidèlement que possible les formes, les proportions, le décor de l'original.
Donc du portail de la gloire de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il est en grandeur nature sur la cathédrale ou bien il a...
Avec certaines distorsions puisque les sculptures sont à 9 mètres du sol et typiquement des personnages qui sont penchés qui sont courbes, la tête repart vers l'arrière mais eux sont penchés un peu vers l'avant avec les jambes qui sont nettement raccourcies et le haut du corps allongé. C'est une espèce de correction d'optique pour que depuis en bas on ait l'impression que le personnage a les proportions correctes. Donc l'instrument a aussi un petit peu cette correction sur le cercle qui est légèrement aplati.
Et donc il est joué par deux vieillards qui sont, c'est une représentation des vieillards de l'Apocalypse, donc comme souvent sur les tympans ou sur les sculptures de cathédrales médiévales.
Alors ça, vous faudra reposer la question à Christian.
J'ai un vague souvenir de Carlos González à l'époque qui avait fait une exposition.
La réponse exacte, je ne vais pas dire oui comme ça.
Il disait que souvent il y avait une relation de maître d'élève, qu'il y en avait un qui avait toujours l'air plus vieux que l'autre.
Ah oui.
Et qui lui donne des indications.
Parce que c'est un instrument, c'est une des spécialités assez étonnantes, qui se joue à deux. Hein. Donc, on a un peu l'impression que c'est un instrument pour fainéant, parce qu'il y a un qui a que la roue à tourner avec une petite manivelle.
Celui qui tourne la roue, il fait quand même un petit peu autre chose, puisqu'en principe, c'est le chanteur qui improvise sur l'organum, donc sur les trois notes, l'octave et la quinte, qui sont tenues. Donc, c'est comme s'il chantait en soliste avec l'accompagnement d'un chœur. L'instrument remplace toutes les voix graves de soutien, et puis lui, il fait une mélodie ornée, plus ou moins improvisée, sur cette teneur.
Donc on ne jouait jamais instrumentalement seulement, ou bien on ne sait pas.
C'est pas un instrument très intéressant à jouer seul, comme soliste, parce qu'il ne produit pas vraiment de mélodie, puisqu'on peut déplacer l'ensemble de l'accord, mais pas une corde séparément.
Oui, chaque tirette ne fait pas une note individuelle.
Une tirette, en fait, il faudrait le voir sur le plan, mais sur l'autre plan. Il y a en fait une petite touche qu'on tire ou qu'on repousse et qui s'applique contre les trois cordes en même temps et qui donc déplace la hauteur pareillement pour les trois.
Ça fait penser aux pédales de l'harpe, en fait, plus qu'à une vieille à roue, alors finalement.
C'est ça. Et en plus, c'est pas un instrument très habile, je veux dire, les tirettes ou les touches ou le clavier. Donc, c'est ces manettes qu'on tire pour déplacer la hauteur des notes. C'est pas un accès très, très facile.
Ça permet pas une virtuosité très rapide.
Vraiment des trilles avec cet instrument.
Mais ça, c'est un principe qu'on trouve aussi dans certains carillons, non, d'avoir des tirettes comme ça.
Alors, on a un carillonneur professionnel derrière nous, là, il faut lui demander.
Ce principe des tirettes, André Pochard, alors je vais vous poser la question, sur l'organistrum, ça fait penser à certains systèmes de carillons aussi, non?
Il y a certains carillons, effectivement, où on tire les cordes, où on tire parfois des morceaux de bois qui sont accrochés aux cordes, ça existe. C'est pas le carillon de Gruyère qui est un carillon à manche de brouette, comme on dit.
Voilà, qu'on frappe.
Qu'on baisse.
Quand on baisse, Vous avez essayé vous-même d'utiliser cette tirette sur l'instrument qui est déjà...
J'ai évidemment essayé hier, c'est tout à fait curieux. Non, c'est bien un organum, c'est pas du tout...
Un instrument mélodique.
Tout à fait. Pour soutenir le chant. Oui.
C'est presque un diapason de l'époque, alors c'est surtout pour donner le ton aux chanteurs.
Oui, c'est ce qu'on appelle un guide-chant, vraiment. C'est pour que les chanteurs entendent l'instrument, parce que ça fait pas mal de bruit en volume, et qu'on garde la référence de où est l'octave et de base et la quinte pour improviser en gardant une justesse de ton.
Et la pièce triangulaire que vous limez là, Philippe Moterio, c'est quoi? C'est quelle partie de l'instrument?
C'est la tête de l'instrument. Pour ça, il faut aller voir sur le plan à quoi ça correspond, parce qu'effectivement, c'est une pièce très étrange à voir.
Avec une sorte de toit.
Voilà. Difficile de dire ce que c'est. Hein, si ah oui,
d'accord. Et donc, c'est en même temps l'endroit où seront attachées les cordes?
Oui, on va attacher là-dessus le sillet, c'est-à-dire la partie où les cordes vont reposer. Donc, c'est la tête de l'instrument, la fin. Oui.
Qui a cette forme un peu de pagode, c'est étonnant. Hein, forme orientale.
Oui, et ça, c'est quelque chose qu'on peut interpréter à fantaisie. Mais bon, il se trouve que cette forme est très jolie, donc il y a pas. On va faire pareil.
Dans le décor, il y a une petite flamme, comme une petite goutte. Oui. Comment est-ce que vous l'interprétez, vous, Philippe Motté? C'est une fantaisie.
Troisième œil.
L'oriental, mais vous.
Troisième œil, c'est ça?
Ah oui.
Ça complique un petit peu la sculpture à l'intérieur, évidemment, cette courbe en pagode, quand il faut l'éviter. Et puis, il y a une espèce de rampe à l'intérieur qui est assez costaud, sur laquelle va reposer le sillet. Ça, c'est une pièce vraiment importante, en os, qui marque l'arrêt de la corde de la longueur vibrante. Et puis c'est une arête qui doit être bien nette et bien dessinée. Si elle ne l'est pas, on entend des bruits parasites très gênants.
Alors bon, c'est caché à l'intérieur du manche. Hein.
Oui. Et à travers ce gros bloc, on va percer l'emplacement des chevilles. À la lésoire, on fait des trous légèrement coniques. Et puis les chevilles, elles sont taillées un petit peu à la manière médiévale, c'est-à-dire elles ne sont pas vraiment tournées, mais taillé au couteau, en forme de cœur approximatif.
Et puis c'est caché à l'intérieur. Vous venez de m'ouvrir l'instrument de modèle.
Et là, ça reste on voit alors les tirettes. Christian appelle ça des claviers.
Oui.
Donc où on voit bien un système. Ici, le système sur cet instrument modifie la hauteur de deux cordes, et non pas des trois. Mais simplement en appuyant la corde, il faudrait juste que quelqu'un le fasse sonner. Voilà. Et puis, c'est ici un instrument avec les 12. Voilà, à chaque fois que je monte une marche dans l'échelle, on gravit un demi-ton.
C'est chromatique, c'est vrai.
Voilà, cet instrument a une gamme chromatique, et celui qu'on va construire a une gamme pythagoricienne de 7 étages, c'est ça?
12?
Non.
7 étages, c'est la gamme
7 par ton.
Diatonicienne.
Voilà.
Et il y aura aussi 12.
Non, 7.
Seulement 7.
Oui.
Et puis le fait qu'il n'y a que deux des cordes qui soient modifiées, ça c'est aussi attesté, c'est difficile à voir sur le modèle, puisque si on rappelle que c'est une sculpture.
Celui qu'on va construire aura 3 crans.
Donc on pourra modifier
l'ensemble des cordes.
De base.
Oui, c'est ça. Comme sur le plan, ici. Alors attention, hop. Voilà, comme on le voit sur le plan ici, on voit bien là le clavier de profil avec l'arête dessinée pour toucher les trois cordes en même temps. Voilà.
Ça fait un instrument finalement assez didactique apparemment, hein, puisque on peut jouer chaque note de la gamme,
on peut transposer. Je ne sais pas comment il disait à l'époque, mais n'importe quel abruti fera sonner cet instrument parfaitement bien dès le premier jour. Voilà.
Il n'y aura pas de cours de maître d'organistrum l'année prochaine à l'atelier de Royer.
Je pense que ce serait passablement ennuyeux. Intéressant pour celui qui chante,
par contre.
Oui. Je pense qu'on mettait à l'organistrum le même genre de personnage qui était celui qui soulevait les soufflets de l'orgue pendant qu'un autre jouait.
Et vous, Nina, alors vous êtes Amstelodamois, comment est-ce qu'on dit d'origine, mais vous êtes établie à Gruyère.
Mes parents sont hollandais, Mais je suis née ici et je suis repartie il y a 2 ans pour étudier à Amsterdam.
Et vous intéressez de près à la lutherie? Vous avez déjà fait une expérience de construction d'instruments ou...
C'est mon 4e stage. J'ai fait une guitare baroque, une guitare électrique, et puis le premier stage avec Philippe, on a fait un luth renaissance.
Là, votre travail, c'est de reproduire le dessin sur les plaques de bois, c'est ça?
Oui.
C'est quel bois?
C'est du tilleul. Ouais. Donc là, je fais le couvert.
Voilà, avec son motif tressé.
Oui.
Puis après, vous allez découper le bois vous-même aussi?
Oui, je dois enlever beaucoup de parties. C'est vraiment un travail de sculpture. Ouais, très précis. Ouais.
Vous faites simplement de la décalque comme ça, et vous pensez, c'est comme ça qu'on faisait aussi à l'époque Moyen-Âge, on reproduisait.
J'en ai aucune idée, mais ça m'étonnerait. Non, je pense que c'était.
Ça, c'est les deux, c'est la fameuse forme de la table qui ressemble à deux cercles. Hein. C'est beaucoup plus circulaire qu'une vielle ou qu'un violon.
Ouais, c'est vraiment un 8 avec.
Une sorte de lunette.
Voilà, une lunette avec des petits argots cercles en plus à la jonction pour.
Ça va être aussi découpé sur du même bois, sur du tilleul.
Oui, c'est tout en tilleul, la caisse.
Et comment est-ce que vous avez eu connaissance de ce stage de lutherie qui se fait à Gruyère? Vous venez de Paris aussi, c'est ça?
Oui.
Je peux vous demander votre nom?
Lara. Et je m'intéressais surtout à la lutherie de lutte. Et je suis allée voir un luthier à Paris qui m'a indiqué ça.
Vous allez continuer à faire des instruments?
Ouais.
Vous êtes musicienne?
Oui, mais pas. Enfin, je chante et je joue du hautbois, donc c'est assez différent. Quand même.
Vous avez déjà essayé de tourner un hautbois ou de voir construire un hautbois? Ça vous intéresse?
Non, mais ça m'intéresse pas trop, justement.
Je suis entré par hasard, la porte était ouverte. Vous savez ce que c'est qu'un organistrum?
Non, pas du tout.
C'est l'instrument qu'il fabrique au stage de lutherie.
D'accord, c'est parfait. Merci. Et une bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir.
Extraordinaire.
Oui. Vous avez vu le modèle?
Oui, c'est superbe. Super. Mais pourquoi il y a une manivelle?
Bonjour, monsieur, dame.
Bonjour.
Vous visitez le village?
Oui.
Vous connaissiez Gruyère déjà? Did you know Gruyère before?
No, just cold. It's very beautiful.
Yes. Did you know there is an ancient music festival this week, medieval festival with the construction of an instrument, an organistrum? Do you know what an organistrum
is? Yes. Yes.
Yes.
Yes.
Oh,
very nice. Yes. But sadly, we can't move because we're moving on this morning. Okay. Thank you. Goodbye.
Thank you.
Komodo organistrum construatum. Comment construire l'organistrum?
Un organistrum, vous savez ce que c'est, madame?
Non.
C'est un instrument très ancien du...
C'est donc un instrument de grande taille qui nécessite 2 instrumentistes. Il adopte la plupart du temps la caisse de résonance de la vielle archet, puisque l'archet étant paru, il y a des instruments archets qui vont se développer en dehors de ce système-là.
Bonne journée, merci.
Merci, Laura.
Do you know what an organistrum is?
An organistrum? No.
Bonjour madame.
Monsieur.
Nous sommes au chalet ici qui est un des restaurants typiques du village de Gruyère avec sa façade de pavillon et donc un des endroits les plus fréquentés où les serveuses sont en zaquillon, c'est bien ça madame?
Oui, mais pas aujourd'hui monsieur.
Ah oui, il y a cet atelier de musique ancienne où se construit en ce moment un organistrum. Vous savez ce qu'est un organistrum?
Non, franchement non.
En fait c'est un instrument qui est très très ciblé dans le temps puisque il ne va être...
Vous connaissiez l'organistrum?
Ah non, pas du tout, on tombe ici par...
Il va se développer
sur toute
l'Europe chrétienne.
Bonne journée, merci.
Merci.
êtes déjà venu à Gruyère? Sind Sie schon hier gewesen, ja?
Nein, das erste Mal.
Ja. Yes. Yes. Yes.
Alors on est avant l'ouverture ici dans le bar, l'un des lieux mythiques des hauts du village de Gruyère. C'est ce bar Guiguerre, la décoration assez impressionnante, qui a peut-être quelque chose à voir avec le Moyen-Âge. Vous êtes...
Le patron.
Le patron.
Bonjour, Radio Suisse Romande.
Bonjour. Et donc, est-ce que vous savez ce qu'est un organistrum?
Non.
C'est donc un instrument de grande taille qui nécessite deux instrumentistes.
Eh bien, je suis content d'apprendre ça.
Eh bien, merci, bonne journée.
Voilà, au revoir. Au revoir.
Nous vous avouons, mon auditeur et moi, David Mestri, que notre perception du monde ne sera plus tout à fait jamais comme avant depuis que nous sommes immergés, grâce à vous, dans le monde enchanté de l'organistrum.
Construit à Gruyère en août dernier, oui. Un instrument donc qui a 800 ans et qui va nous occuper encore. On ira de nouveau demain suivre l'évolution de cette construction avec les stagiaires et les maîtres luthiers Christian Rau et Philippe Motério. Mm-hmm. Et que diriez-vous d'écouter quelques notes d'organistrum dans son jus, c'est-à-dire
ça se refuse pas.
Dans la musique de Hildegard von Bingen, la grande abbesse du XIIe siècle qui composait ce O Viriditatis Digiti Dei, O Verdeur du doigt de Dieu, les voix de femmes sont accompagnées par l'organistrum et quelques vielles ensuite, la musique de l'ensemble Sequentia.
Thank you.
de la musique d'Hildegard von Bingen, la part l'ensemble Sequentia, David Mestri.
C'est juste, Jean-Luc.
Demain, on retourne à la Gruyère, toujours pour quelques morceaux choisis et bien choisis que vous avez tirés du 7e atelier de musique ancienne tel qu'il a eu lieu fin août. Cette émission peut compter chaque jour de l'année sur l'assistance de production d'Isabelle Watson. Et cette semaine, c'est Bruno Seriba qui signe là la réalisation de cette proposition de Jean-Luc Rider.
Espace 2. Des copies de nos émissions au 026 323 24 24.
L'affaire vous intéresse? Eh bien, chaque émission de Musique en mémoire s'entend aussi la nuit, dès minuit, en nouvelle diffusion, sur Espace 2. Elle se podcast aussi, si vous en avez envie. Et nous, c'est bien demain que nous retournerons à Gruyère pour peaufiner notre organistrum. D'ici là, je vous souhaite de très doux moments. Tenez, pourquoi pas ici ou là? Écoute d'Espace 2. Bye bye.
Espace 2, Catherine Buzer.
Éric Tanguy, vous vous en souvenez? Le compositeur français était l'invité de L'Île au Trésor en novembre 2008, il y a tout juste 2 ans. Il nous avait rendu visite juste après l'apparition de ses 2 derniers disques, l'un consacré à ses concertos pour violoncelle et orchestre, et l'autre à un coffret réunissant le meilleur de son travail. Voici pour vous une nouvelle occasion de le suivre dans son travail de compositeur. Bonjour à tous, bienvenue.
L'île au trésor.
Eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir toute cette semaine à l'enseigne de L'île au trésor un très grand artiste, un musicien français de renommée internationale qui est aujourd'hui reçu un peu partout dans le monde avec tous les honneurs, non pas comme interprète, mais comme compositeur. Il est l'un des rares compositeurs de la scène actuelle qui vit entièrement de sa profession. Son catalogue est très impressionnant avec près de 80 partitions déjà. Parmi elles, on va citer Eclipse qui a été composé pour célébrer la dernière éclipse du millénaire le 11 août 1999 ou encore un concerto pour violoncelle et orchestre qui a été créé par Mstislav Rostropovitch en 2001. Et pourtant, c'est encore presque un jeune homme, puisqu'il n'a pas 40 ans. Il les fêtera en janvier prochain. Cet artiste au visage lumineux, chaleureux, avec un brin de malice dans le coin de l'œil, c'est Éric Tanguy. Éric Tanguy qui nous fait l'amitié de nous accueillir toute cette semaine dans son jardin musical. Éric Tanguy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir bien voulu nous consacrer un peu de votre temps et de partager avec nous votre passion pour la musique et surtout vos coups de cœur. Alors, le 27 janvier prochain, vous allez fêter vos 40 ans. Quel effet ça fait d'être né le même jour qu'un Mozart, en 27 janvier, et de constater que les musiciens d'aujourd'hui jouent du Tanguy comme ils joueraient du Mozart ou du Sibelius?
Alors effectivement, le jour où j'ai découvert que Mozart était né le 27 janvier, je dirais que j'ai eu un petit choc, quand même un gros choc. Et puis finalement, je le prends comme une bonne chose, une bonne étoile, je dirais. Et de toute façon, la musique, c'est ma passion depuis l'enfance. Je dirais que c'est un hasard du calendrier, voilà. Maintenant, c'est vrai que lorsque je travaille avec des musiciens, beaucoup de musiciens, j'ai cette chance extraordinaire, ils me disent « Tiens, je vais te jouer mon Tanguy ». Alors c'est drôle, au lieu de me dire, enfin, c'est comme s'ils disaient « Je vais jouer mon, toute proportion gardée, bien sûr, mais mon Mozart, mon Beethoven, mon ceci, mon cela ». Et c'est vrai que c'est amusant du point de vue du langage, on va dire.
Alors bien ce matin, avant de nous plonger dans les trésors de votre discothèque, je vais proposer aux auditeurs de faire connaissance avec votre musique. Et puis je vous ai demandé par quelle œuvre il fallait entrer dans votre œuvre. Vous m'en avez cité 3, on en a retenu une que j'aimerais bien que vous nous présentiez.
Incanto, c'est une pièce pour orchestre symphonique, de type formation Mozart d'ailleurs. Et elle a été créée à New York par l'orchestre de Bretagne en 2002. Et c'est une partition très jubilatoire. Incanto, ça veut dire enchantement. Et c'est vrai qu'en écrivant cette pièce, j'avais le sentiment de voir produire quelque chose de joyeux et intense.
Eh bien, nous allons l'écouter. Ici, c'est l'orchestre de Bretagne qui l'interprète sous la direction de Stéphane Sanderling.